un mal qui répand la terreur, et que le ciel en sa fureur envoya un jour sur la terre, faisait aux animaux la guerre. C'était un petit virus vicieux, vilain et triste comme un adieu, qui les laissait tous sans défense, morts ou seuls dans l'existence. La peur avait détruit l'amour qui mettait en péril leur jour, l'angoisse leur coupait l'appétit, ils n'épargnaient même pas les petits. Alors le lion tint conseil, il faudra bien que quelqu'un paye, le public veut un responsable, offrons-lui donc le plus coupable. Selon que vous soyez puissant ou misérable, la justice est la même, juste mais impitoyable. Puisqu'il exige un sacrifice, j'ai trouvé le moment propice pour faire notre examen.
Yeah. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître dit publicité. C'est Jeudi Noir qui commence pour sa première partie. Et ce soir, donc c'est Morane qui va nous parler. C'est Jean-Mathias qui est au platine, c'est José qui a fait la bande-son, comme vous avez pu le voir. Et donc maintenant, déjà, vous vous doutez qu'il y aura sans doute un rapport avec le jazz. Non, pas du tout. Et parce que le morceau a un nom allemand que je me garderai bien de prononcer, parce que pour moi, l'allemand, c'est imprononçable. Et donc, Jean-Mathias a tenu à être platine. Voilà, maintenant, il faut payer. Donc, je vais quand même prononcer les choses, parce que faut essayer hein, quand même. Voilà, donc c'est Erhard Bosch und sein Orchester, quelque chose comme ça. Donc, un truc dans le genre. C'est de l'allemand. Nacht Express nach Warschau. Nacht, paraît-il. Nacht Express nach Warschau. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça durait 2 minutes 40. Vous avez pu en apercevoir. Vous trouvez toutes les références musicales sur le site Gurdulu. Plus tard, après l'émission. Et comme ça, vous aurez peut-être, si vous êtes germaniste, l'occasion de lire les choses avec un bon accent dans votre tête. Donc, ce soir, donc, Morane nous présente un livre qui a un rapport, donc, non pas avec le jazz, mais un petit peu, mais une fois de plus, avec les nazis. Et avec, en particulier, les gens qui ont résisté au nazisme. Donc, c'est un livre de Sacha Lang. Ça s'écrit Lange en français, hein, mais bon, on m'a dit qu'il fallait prononcer Lang. Moi, ce que je comprends pas, parce qu'il y a un réalisateur qui s'appelle Lang et ça s'écrit sans E. Mais bon. Jean-Mathias, ici, n'est d'aucune aide. Et donc, ce livre donc, de Sacha Lang s'intitule Meute, au pluriel. Meute, Swing et Pirates de l'Edelweiss. Avec une préface de Johann Chapoutot. Et c'est un sous-titre, donc, Contre-culture jeune dans l'Allemagne nazie, aux éditions Battement par minute. C'est un livre qui a été écrit en 2015, qui a été traduit en 2025, c'est donc ça. C'est assez récent, avec une maison d'édition qui est toute neuve. Ouais. Et donc, dans cet ouvrage, l'historien aborde une histoire qui est souvent méconnue. Enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler. Ouais. Alors que j'ai lu 2-3 bricoles sur l'Allemagne nazie, des espèces de mouvements de résistance ou de concurrence.
Voilà,
on y reviendra parce que c'est compliqué. Mais les mouvements de jeunesse, disons, un peu subversifs, qui vont s'appuyer sur des revendications culturelles comme la musique, les vêtements, j'imagine peut-être aussi même l'apparence physique, du type les coiffures.
Beaucoup, oui.
Pour résister, disons, aux nazis.
Voilà.
Et donc c'est entre 1900 dans les années 30 et 40.
Oui, voilà, c'est ça, partir un peu avant les années 30 et puis jusqu'à la fin de la guerre, quoi. Donc oui, en fait, ce livre-là, il parle de toute la diversité en fait des contre-cultures jeunes qui sont développées donc dans l'Allemagne nazie. Et l'un des grands intérêts de ce livre, c'est justement de montrer plusieurs choses. Détricoter un peu l'image de la jeunesse résistante, engagée politiquement, etc., pour mettre en avant des formes de résistance infra-politique, c'est-à-dire dans le quotidien, pas nécessairement revendiquée, etc. Et en fait, dans l'Allemagne nazie, il y a toute une flopée en fait de mouvements. Il y en a beaucoup. Il accentue son propos sur quelques-uns, mais qui ont à leur façon résisté au nazisme et surtout à l'autoritarisme nazi imposé à la jeunesse en fait. Voilà. Donc voilà, il met un peu en avant une forme de résistance souterraine, effectivement, qui passe par et le style et la musique, et pour certains groupes, on va le voir, un peu plus politisé. Donc les groupes qu'il étudie, c'est des groupes de jeunes informels, c'est ça qu'on appelle par exemple les meutes, qui ont entre 12 et 20 ans, quoi, en gros, pour aller vite. Et voilà. Donc, c'est des mouvements qui ont une nature un peu donc infra-politique, ce qu'on disait, et qui vont développer une identité culturelle, qui passe donc par les vêtements. On verra la description des rapports de la Gestapo sur ces groupes-là. Ça vaut le détour. Et musicaux, effectivement, en écoutant du swing, du jazz, entre autres, comme des marqueurs en fait un peu d'un rejet de la culture nazie, quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'il met en avant comment la localisation géographique où situent ces mouvements, donc en fonction de la partie de l'Allemagne concernée, de la ville concernée, on va avoir des formes de politisation plus ou moins présentes et des modes d'action assez différents, en fait. Donc voilà, alors quand même, dans ces groupes-là, il y a une prédominance de la jeunesse ouvrière et un autre apport aussi qui a été très peu étudié justement jusqu'ici, et c'est un apport de ce livre, c'est qu'il va voir la place des femmes, des jeunes femmes dans ces mouvements-là. Voilà. Donc, alors, dès le début du livre, en fait, il inscrit un peu son livre dans des analyses préexistantes. Alors, d'un historien allemand que moi, je ne connaissais pas, qui s'appelle Detlev Peukert. Voilà. Et en fait, il va reprendre la distinction que cet historien fait entre deux termes allemands qui désignent la résistance. Donc, il a la résistance comme Widerstand, c'est-à-dire des actions consciemment politiques, en fait, qui visent vraiment à la chute du régime. Enfin, voilà, la résistance, celle qu'on se l'imagine, quoi. Mmh.
La résistance consciente.
La résistance consciente, politisée, etc. Donc, il va montrer qu'il y a des groupes qui sont plutôt tournés vers ça, des groupes de jeunes plutôt tournés vers ça, et d'autres groupes plutôt tournés vers ce qu'il appelle la résistance. Et là, c'est plutôt traduit donc, dans le livre comme non-conformité, en fait. Mmh. Dans ce cas-là, c'est plutôt une forme de dissidence quotidienne, un refus des codes imposés et du symbolisme, en fait, nazi, qui passe par justement refuser le salut nazi, le détourner, écouter du jazz, porter des vêtements interdits, des badges interdits, faire des activités de loisirs interdits, etc. Donc là, on est moins sur des mouvements de gauche, en fait. On a même des jeunes qui seraient plutôt ce qu'on nous qualifierait d'extrême droite là-dedans, mais qui refusent, en fait, l'autoritarisme imposé aux jeunes.
D'accord, c'est plutôt un anticonformisme.
C'est un anticonformisme, voilà. Mmh. Et un des points importants du livre, c'est justement ça, c'est montrer que ce que nous, on peut qualifier de résistance, en fait, a pris vraiment plusieurs formes. Mmh. Et une très grande partie, en fait, de la résistance chez les jeunes est plutôt cette non-conformité, en fait, plutôt qu'une résistance héroïque extrêmement politisée, même si elle existe, on va le voir. Mais voilà. Donc, dans son livre, il dresse un panorama de l'ensemble des groupements de jeunesse. Et ils sont très nombreux. Et il montre justement que pour certains groupes, il y a eu une transition entre cette résistance Widerstand et cette non-conformité. Et cette transition, en fait, cette politisation dans certains groupes, c'est faite en fait en réaction un peu à l'oppression et à la brutalité de tout l'appareil répressif nazi, en fait. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est un autre point qui montre comment est-ce que les groupes peuvent basculer partiellement.
Être radicalisés.
Ouais, voilà, peuvent se radicaliser, peuvent se politiser, en fait. Voilà.
Donc, en fait, au début, ça commence comme un mouvement d'ado, et comme le système leur tombe sur la gueule, ils réfléchissent et ils passent à un stade supérieur.
Ça peut être ça. Donc, c'est déjà pas toujours le cas.
Okay.
Ça dépend beaucoup
forcément
des groupes, mais c'est assez présent, quoi. Voilà. Donc, lui, son idée, c'est un peu de détricoter l'idée de résistance politisée, active. C'est pas toujours ça. Ça n'a pas toujours été ça. Et donc, il fait un peu indirectement, parce que c'est plus un travail d'historien que de sociologue, mais il établit un peu une typologie, en fait, de ces groupes-là. Donc, c'est foisonnant. Hein. En établissant le lieu des groupes, leur mode d'action, leur mode de réunion, comment est-ce qu'ils s'opposent aux jeunesses hitlériennes, notamment, etc., leur background politique, économique, etc. Et pour ce livre, il s'appuie notamment sur deux sources principales, et c'est ce qui en fait intérêt aussi, des documents d'archives nationaux-socialistes, donc en gros des rapports de la Gestapo et des rapports des jeunesses hitlériennes, des dossiers judiciaires aussi, parce qu'il y a eu des procès sur ces jeunes-là, qui permettent de comprendre la perception qu'avait aussi le régime nazi de ces groupes de jeunes, et toutes les mécaniques de la répression qui leur a été imposé, quoi. Donc ça, c'est une première source. Et une deuxième source, et ça c'est plutôt très intéressant, beaucoup d'entretiens avec des protagonistes en fait. Donc c'est-à-dire avec des jeunes, enfin ceux qui étaient à l'époque jeunes, donc nés dans les années 20, 25, voire un peu plus tôt. Voilà, il y a pas mal d'entretiens avec ces témoins-là, anciens membres de ces groupes. Voilà. Donc voilà, pour moi, ce qui est particulièrement intéressant dans ce livre, c'est ça, c'est un peu l'ancrage social de la résistance, comment on aboutit à des formes de résistance différentes, plus ou moins politisées, en fonction d'une analyse un peu sociologique en fait des groupes, et puis le rôle des femmes en fait, le rôle des femmes, des jeunes femmes dans ces mouvements, qui finalement a été assez important, au moins quantitativement, voilà. Donc
pourquoi ? Parce que traditionnellement, les jeunes femmes n'étaient pas forcément les bienvenues dans des modalités d'expression politique plus classiques.
Alors, il le dit pas comme ça, mais en tout cas, dans la littérature un peu sur ces sujets-là, c'était assez marginalisé comme sujet. Mmh. Donc lui, il le remet un peu à jour, et puis. Et il montre en fait qu'il y a un quart, voire un tiers des effectifs de ces groupes-là, quand même, qui étaient des femmes. Après, on le verra, mais justement, dans les rapports ou de la Gestapo ou des jeunesses hitlériennes, évidemment, ils indiquent la présence de femmes en minimisant beaucoup leur rôle, quoi. Voilà. Donc, le fait de les remettre un peu, après, voilà, elles n'ont pas joué un rôle fondamentalement différent de leurs compagnons hommes, hein, mais elles étaient présentes et très présentes.
Voilà. D'accord, le fait qu'elles soient présentes était significatif en soi.
Voilà, ouais. C'est ça. Puis on va le voir aussi, c'est rien que ça, en tant que tel, c'était aussi une forme, la non-mixité en fait, de ces groupes-là, était aussi une forme d'opposition à ce que tentaient de faire les jeunesses hitlériennes.
La mixité, tu veux dire ?
La mixité. Voilà.
Oui, parce que les femmes, c'était cuisine, voilà. Église et quoi d'autre j'ai oublié toujours.
Et les enfants.
Kirche, Küche et Kinder, un truc comme ça. Comme les Kinder.
Kinder.
Comme les Kinder, là, les machins qu'on ouvre avec des machins pour jouer dedans.
Voilà, exactement. Donc, voilà. Alors, il commence ce livre pour un peu comprendre toutes les trajectoires de ces mouvements de jeunesse. Il commence par établir un peu le background, sur quoi ils se sont formés, d'où ça vient, etc. Et en fait, il part donc de la République de Weimar. Et il montre que le mouvement de jeunesse allemand, en fait, il prend vraiment racine un peu avant 1914, avec notamment un groupe qui s'appelle les Vandervögel, donc traduction les oiseaux de passage, qui en fait dès la fin du 19e siècle en Allemagne sont influencés par les idéaux un peu néo-romantiques qui prônent la fuite loin du monde urbain, retrouver sa nature et sa liberté justement dans la nature, donc avec des activités en nature, le camping, etc. Enfin bref, là, un peu la fuite.
L'udisme, oui, j'imagine aussi l'alpinisme, comment dire, tout la randonnée, tout ça.
Oui.
C'était pas des scouts protestants par hasard ?
Alors, on va parler des scouts et on va parler des scouts protestants aussi. Mais oui, en fait, voilà, ça fait vraiment penser un peu au scoutisme, quoi. C'est vrai que. Et même dans les tenues, on va le voir, mais ça s'inscrit vraiment là-dedans, quoi.
Des t-shirts qui montent les genoux ?
Les quoi ?
Des petits shorts qui montrent les genoux.
Des petits shorts, oui, qui montrent les genoux, des chemises, des petits foulards, des chaussures de randonnée.
Tout l'attirail.
Tout, ouais. Tout ça, quoi. Et donc, voilà, donc, ce mouvement de la jeunesse, il prend vraiment racine là-dedans, dans cet idéalisme-là. Et donc, fin du 19e siècle, et sous Weimar, donc là, on fait un petit saut dans le temps, hein, mais... Sous Weimar, en fait, la jeunesse acquiert beaucoup de temps libre quand il y a eu l'instauration de la journée de 8 heures. Voilà. La limitation, en fait, à la journée de 8 heures. Se sont alors développées tout un tas d'associations, essentiellement bourgeoises, d'ailleurs, c'est ce qu'il indique. Hein. Mais pas que, mais voilà, en fait, le mouvement de la jeunesse était quand même essentiellement... c'est un peu réducteur de dire essentiellement bourgeois, mais la jeunesse bourgeoise était beaucoup plus présente que la jeunesse prolétaire, par exemple, même si celle-ci était quand même là. Voilà. Ce mouvement de la jeunesse sous la République de Weimar était assez éclaté, en fait. Hein. Donc, on avait des associations plutôt confessionnelles, catholiques ou protestantes. On va voir ce qu'elles sont devenues sous le nazisme.
C'était quand même un peu formalisé.
Et c'était formalisé, bah, il y avait un
institutionnalisé, quoi.
Institutionnalisé, mais en fait, il y avait des centaines, si tu veux, d'associations différentes. D'accord. Qui avaient chacune leur propre code, leurs propres règles, etc. Mais il y avait en tout cas, le nom de mouvement de la jeunesse existait. Donc, on avait ces associations-là. On avait un groupement qui lui-même est composé de plein d'associations, mais qui est essentiel pour le propos du livre, là, qui est le Bündische Jugend, donc le mouvement des jeunes, en fait. Ouais, c'est ça, le mouvement des jeunes. Et qui, là, pour le coup, ressemble vraiment beaucoup au scoutisme, hein, qui met l'accent sur l'aventure, la nature, etc. Et c'est le groupe le plus important de ce mouvement de la jeunesse. Voilà. Et puis, à côté de ça, on avait aussi, évidemment, les mouvements ouvriers. Les Rotefalken, le KJVD qui était en lien avec le Parti communiste, etc. Eux, plutôt axés sur l'éducation collective, la lutte sociale. Et là, pour le coup, on avait des mouvements de jeunesse réellement politisés. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, l'état des lieux du mouvement de la jeunesse sous Weimar, avant le nazisme. Au moment où le nazisme arrive, on a justement un espèce de tournant à partir de 1933.
Donc on va bientôt couper, si Jean-Mathias nous écoute, et passer un morceau de musique. Et on reprendra ensuite pour la deuxième partie de ta présentation. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4. C'est Jeudi Noir qui reprend pour sa deuxième partie avec Morane, donc, qui nous présente un bouquin de Sacha Lang, Meute, Swing et Pirates de l'Edelweiss, aux éditions Battements par Minute. Un bouquin publié en 2025. Et là, vous venez d'entendre un autre morceau allemand par le plus grand des hasards. Je crois qu'il y a une espèce de complot Jean-Mathias Sauve, José, pour m'obliger à prononcer des mots en allemand.
Comme Weimar.
Comme Weimar, par exemple. Donc, Wilhelmstanke und sein Orchester. Donc, c'est un peu la même chose que la fois précédente. Sauf que c'est pas Erhard Bosch, c'est Wilhelmstanke. Ou Stanke. Et c'est des Schwarzenpanther, donc je pense que ça veut dire la panthère noire, grâce à mes grandes connaissances linguistiques. Et donc, là, dans la première partie, Moran, tu nous as présenté donc le mouvement de Weimar.
La jeunesse sous Weimar.
Et donc, comment, en quelque sorte, ça avait commencé bien avant, même avant Weimar, sous l'Empire, avec des mouvements qui étaient, d'organisation de soit politique, soit pas trop, mais qui pouvaient s'apparenter un petit peu à nos mouvements scouts ou à ce que nous on a connu comme les jeunesses communistes ou des trucs un peu équivalents. Et donc, qu'est-ce qui va se passer finalement quand les nazis prennent le pouvoir et écrasent avec une rapidité étonnante d'à peu près toute forme d'opposition?
Oui, alors c'est pas si simple, oui. Mais effectivement, donc en 1933, il y a un tournant pour les mouvements de la jeunesse, bon, et pas que. Hein. En fait, le régime nazi va publier toute une suite d'ordonnances pour briser toute résistance potentielle de ces groupes. Donc on a une destruction du pluralisme en interdisant les organisations de jeunesse ouvrière qui, eux, pour le coup, sont sévèrement et rudement tapées dès le début, ce qui n'a pas été le cas pour tous les groupes, on va le voir. Mais les socialistes, les communistes, eux, ils tombent dans l'illégalité directe, quoi. Ensuite, le fameux groupe qui est clé là dans son analyse, le Bundische Jugend, en 1933, le Reich ordonne la dissolution des ligues autonomes pour garantir en fait le monopole des jeunesses hitlériennes, quoi. Donc en 1933, décision de dissoudre ce groupe de la jeunesse. Et tout ça va s'accompagner de tout un appareil répressif, en fait, qui va être mis en place, et on va le voir de manière assez progressive, en fait. Voilà. Après, ça a été fait de manière assez différenciée. Par exemple, l'interdiction des groupes socialistes, enfin de gauche, qui sont forcés de passer dans la clandestinité, ça s'est fait aussi, plus ou moins progressivement. Pour les communistes, ça a été une répression très forte, très directe et brutale, en fait. Pour le SPD, donc les groupements associés au Parti Socialiste, ça a été un peu plus, légèrement plus lent. Enfin, ça a duré quand même moins d'un an, hein. Mais ça a été légèrement plus lent parce que la vision de ces groupes associés au SPD, c'était plutôt de faire en sorte que on est toujours une république, même sous Hitler, en pensant que ça n'allait pas nécessairement durer, etc. Donc c'était plutôt une forme de réformisme, en fait, qui était visée plutôt qu'autre chose. Voilà.
De la part des autorités nazies?
De la part, non, des mouvements de la jeunesse associés au SPD.
C'est-à-dire qu'eux, ils se sont dit,
on va faire profil bas,
on va pas s'opposer directement.
Voilà, et on va attendre un peu que ça passe, d'accord. On va calmer le jeu. Okay. Mais ça n'a pas marché non plus. Hein. Ils ont, okay, un peu moins rapidement que les communistes, mais ils ont aussi été mis de côté assez rapidement quand même. Voilà. Par rapport aux ligues des plutôt bourgeoises et plutôt protestantes, elles ont été directement absorbé dans les jeunesses hitlériennes, en fait. Donc les scouts protestants étaient très contents. On n'a pas pensé à trois fois, en fait, avant d'intégrer les jeunesses hitlériennes. Ils ont été complètement absorbés. Voilà. Donc suite à ça, donc là on était en 1933, hein. Suite à ça, on a une forme de monopole, ou en tout cas une volonté de monopole des jeunesses hitlériennes. Et en décembre, enfin le 1er décembre 36, on a une loi qui passe, c'est là que ça commence à se judiciariser aussi, hein, qui donne en fait aux jeunesses hitlériennes le rôle d'éducateur unique à côté de la famille et de l'école. Voilà. Donc là, pour le coup, tous les autres groupements tombent sous le coup de l'illégalité. Et donc se met en place tout un appareil de surveillance, notamment dans, et c'est ce qui va nous intéresser, hein, dans les rues, dans le quotidien, pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune forme de groupement de jeunesse possible, en dehors des jeunesses hitlériennes. Alors au début, les jeunesses hitlériennes ne sont pas obligatoires, hein. Ça se base essentiellement sur le volontariat, d'où ce service aussi de surveillance pour inciter aussi les jeunes à rejoindre les jeunesses hitlériennes, pour traquer les insignes interdits et les vêtements non conformes dans l'espace public.
Elles vont devenir obligatoires, les jeunesses hitlériennes ?
Elles vont le devenir de fait, en fait. Je vais y venir, mais... elles vont devenir de fait, puisque pour avoir certains postes, pour avoir certaines formations après lycée, etc., il faudrait y appartenir, quoi. Donc, ça va devenir une obligation de fait, en fait, en 39. Hein. Pour tous les jeunes, de 10 à 18 ans. Donc, il y a 6 ans qui s'écoulent entre l'abolition de ces groupements-là et l'adhésion obligatoire aux jeunesses hitlériennes. Donc, face à cette surveillance, à cette répression, en fait, les jeunes qui ne font pas partie des jeunesses hitlériennes, sachant qu'ils sont quand même majoritaires, hein, en fait, en 39, on a moins de 50% des jeunes qui sont enrôlés.
D'accord.
Dans les jeunesses hitlériennes.
Ok, c'est vrai.
Alors, pourquoi, on va le voir, mais en gros, il y a des défauts quand même de... de moyens, en fait.
Et puis, il y avait aussi peut-être la tentation chez les nazis de vouloir toujours constituer une petite élite. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de trucs, ils ont mis un numerus clausus à l'entrée dans le parti nazi. Mm-hmm. Parce qu'ils craignaient un peu les arrivistes et ils avaient un côté du genre, on est les purs militants.
Ben,
on va pas se laisser bouffer par... pour les jeunesses, c'est peut-être autre chose.
Voilà, pour les jeunesses, c'est autre chose parce que eux, quand même, l'objectif, c'est aussi d'avoir une armée de réserve, en fait, qui peut être formée très tôt, etc., dans la perspective de la guerre, en fait. Donc, c'est pas une... Non, ils l'ont déploré, hein, et on le voit dans les rapports de la Gestapo, etc.
D'accord.
Ça va être un vrai problème pour eux, en fait. Mais voilà, donc les jeunes veulent retrouver des espaces de liberté face au cadre hyper formel, hyper rigoriste des jeunesses hitlériennes. Ils vont former en fait des groupes informels, des bandes informelles qui vont émerger. Et on y retrouve aussi dans ces bandes en fait des déçus des jeunesses hitlériennes. Alors des déçus des jeunesses hitlériennes, c'est pas forcément qu'ils remettent en cause l'idéologie nazie. C'est aussi et c'est ce que souligne Lang. Que en fait ils s'ennuient quoi. ils sont pas hyper attractifs les jeunesses hitlériennes, elles ont un peu de mal à créer des services un peu sympas. Alors oui, il y a du camping, mais le soir il y a des cours d'idéologie, encore une fois il y a une discipline très stricte et là pour le coup ça rejoint ce que tu dis. La promotion sociale au sein de ces jeunesses hitlériennes se fait beaucoup sur le copinage, donc il y a des sentiments d'injustice, etc. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont déçus et qui quittent en fait les jeunesses hitlériennes, pas forcément par conviction, mais par envie d'autre chose, quoi, envie de s'amuser autrement, quoi, en fait. donc voilà. Et donc on a une majorité des jeunes qui n'appartient pas, malgré l'obligation, hein, aux jeunesses hitlériennes. Et donc les autorités vont réagir évidemment à ça. Et en fait on va voir qu'au début ça marche pas du tout. En gros les patrouilles des jeunesses hitlériennes se font plutôt casser la gueule par toutes ces bandes informelles. Et donc face à ça... La répression nazie, donc jusqu'en 45, en fait, va progressivement se durcir, quoi. Donc, on a des obligations qui sont au début institutionnelles. Après, on a un système judiciaire qui va se mettre en place fin des années 30 jusque début des années 40. Et puis après, on va le voir, mais avec la perspective de la défaite et les besoins de la guerre, on va avoir en fait une élimination qui va devenir quasi systématique des opposants. Voilà. Donc voilà, en fait, à la fin des années 30, on a une répression nazie face à ces jeunesses là qui change d'échelle et le crime qu'on va qualifier de haute trahison ou de préparation de haute trahison va faire l'objet en fait de beaucoup de procès à partir donc de 1938. Donc ça vise des jeunes évidemment qui sont dans ces groupes informels. Et qui vont être poursuivis pour ça, avec des peines qui sont de plus en plus lourdes. Ça peut aller à des camps de redressement moral, on peut dire ça, assez court, jusqu'à des peines de prison, travaux forcés, voire camps de concentration pour certains. Voilà. Donc il y a un durcissement progressif comme ça de ce que les jeunes risquent en fait en s'opposant au régime nazi. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte d'émergence de ces groupes et la vision un peu du Reich par rapport à ça. Et donc le cœur du livre, c'est quand même de parler des différents groupes qui vont se constituer. Donc les nazis, au début, vont les appeler, donc au début des années 30 jusqu'en 38-39, pour qualifier ces groupes-là, vont utiliser le terme de Bündische Jugend, donc l'ancien groupe, en fait, hein, l'ancien mouvement de la jeunesse avant le nazisme. Ils vont tous, qui est interdit, hein, ils vont leur poser cette étiquette-là. Pour toute tentative d'auto-organisation de la jeunesse, en fait. Hein. Il les repère, notamment, on peut le voir dans les rapports de la Gestapo ou des jeunesses hitlériennes, par des signes de reconnaissance, qui passent, on l'a dit, par les tenues. Et en fait, les jeunes, beaucoup de groupes de jeunes, vont reprendre les codes vestimentaires du mouvement des jeunes, là, pour en faire un outil de résistance, en fait. Et c'est en entrant dans ces groupes qu'ils vont potentiellement, petit à petit, pour certains groupes, se politiser et rentrer dans une résistance au sens de conscience politique résistante, quoi. Voilà. Donc, alors, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de groupes, mais il en identifie certains particulièrement importants. Alors, le plus connu, c'est la Rose Blanche. On a les Meutes, les Pirates de l'Edelweiss et les Swing. En gros, voilà. Il y en a des centaines d'autres, hein, mais ce sont les principaux. Et pour chacun de ces groupes, il va mettre en avant le profil type social, en fait, des jeunes qui y adhèrent, la nature de leur politisation, du coup, quel type de politisation, si politisation il y a, et leur mode d'opposition, en fait, aux nazis. Donc, il commence par... les meutes, donc les groupes qu'on appelle les meutes de Leipzig, qui eux pour le coup sont des groupements de jeunes plutôt politisés à gauche et plutôt ouvriers. Donc voilà, on a des... Alors, juste pour contextualiser un peu, Leipzig à l'époque c'est vraiment un bastion un peu industriel et donc aussi socialiste et communiste de l'Allemagne, en fait. Et donc on va avoir des jeunes qui viennent de ce milieu-là et qui vont arborer une tenue qui est un peu spécifique, en fait, qui ressemble à nos scouts, à nous, effectivement, une tenue de randonnée la Gestapo va décrire assez précisément. Je peux vous lire un passage ou un rapport de la Gestapo donc qui décrit justement ces tenues. Donc un rapport de la Gestapo de 1936 qui dit, en parlant des meutes, hein, « Cet uniforme se compose en été de chaussures médiévales, de chaussettes blanches montant jusqu'aux genoux, de culottes de peau très courtes, de chemises de ski à carreaux de couleur, d'un ceinturon et en hiver de chaussures médiévales, de chaussettes blanches montant jusqu'aux genoux, de pantalons de golf particulièrement longs et de vestes de slalom grises. Il existe également une version tellement exagérée de cet uniforme qu'on a presque l'impression d'avoir affaire à des Russes. » Voilà. Les filles adoptent également ce costume avec une jupe sombre qui complète le reste de cet accoutrement. Voilà. Donc on a vraiment... en fait là, eux, ils reprennent vraiment les codes vestimentaires du mouvement de la jeunesse pré-1933. Voilà. Donc c'est surtout des jeunes ouvriers et des filles aussi. Beaucoup sont apprentis dans la métallurgie et issu de familles aux traditions socialistes et communistes. Mmh. Alors, comment ça se passe avec les jeunesses hitlériennes qui patrouillent dans Leipzig ? Eh bien, assez violemment, justement, on a des confrontations directes, en fait, où ces groupements de jeunes vont... essayer de reprendre en fait les espaces contrôlés par les jeunesses hitlériennes en allant à la bagarre quoi en fait et il s'avère que c'est les jeunes dans les meutes à Leipzig, il y a plein de meutes hein, mais les jeunes dans les meutes à Leipzig sont beaucoup plus nombreux que les jeunes des patrouilles des jeunesses hitlériennes à l'époque. Et donc voilà, en fait, c'est typiquement eux là, les meutes de Leipzig, un groupe qui va réussir à lutter activement consciemment en fait contre les jeunesses hitlériennes.
C'est quoi, c'est un truc genre on tient la rue?
Alors on tient la rue, on tient les quartiers parce qu'en fait les meutes, il y a des meutes dans chaque quartier et le nom des meutes adopte le nom des quartiers, etc. Donc on tient la rue, on tient les quartiers, on s'habille comme on veut et dès qu'on croise des patrouilles de jeunesse hitlérienne, et ben voilà, on les insulte, on va crever leurs pneus, on va, enfin voilà, il y a et ça peut aller plus loin. Il y a eu évidemment il y a des meurtres, etc. Donc voilà. Et donc ça, c'est des groupes qui sont extrêmement justement politisés. Un groupe emblématique, une meute emblématique, c'est celle du cercle de Schwarzenberg, qui, eux, ont une action directement politique, qui distribuent des tracts anti-hitlériens, qui cherchent à politiser les membres qui rentrent dans leur groupe pour renverser le régime, etc. Donc voilà. Alors, ces groupes... justement, ont été assez fortement réprimés, donc non pas par les jeunesses hitlériennes qui étaient complètement dépassées, mais par la Gestapo, en fait.
C'est passé à l'étage au-dessus.
Voilà, on est passé à l'étage au-dessus. Et notamment, on aura à Leipzig plus de 80 procès pour haute trahison.
Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas subversion, c'est pas des trucs mineurs, c'est haute trahison.
Voilà. Après, on en a eu 80 qui ont abouti, en fait. Mm-hmm. Sauf que on a eu beaucoup plus de procès pour ça, mais finalement, on voit bien dans le livre, hein, y a très peu de preuves tangibles. En fait, c'est comme ce sont des groupes informels, c'est très difficile d'établir un régime de la preuve. Et la plupart du temps, c'est atténué par le fait qu'ils sont jeunes. Voilà, il n'y a pas moyen de prouver en fait vraiment leur acte.
Parce qu'il n'y a pas de revendication d'appartenance politique avec par exemple des activités de tractage,
Figures emblématiques qui eux vont prendre pour les autres, mais pour le reste des jeunes qui sont là et c'est difficile de le prouver en fait. Ouais. Donc il y en a quand même 80, hein, mais par rapport ils sont plus
à la
1500
masse, ouais.
En fait, donc c'est pas tant que ça. Et donc ça peut être la peine la plus souvent exécutée, c'est de les envoyer dans des camps de formation, notamment à Midwerda, là, où on va les redresser idéologiquement, etc. Voilà. Donc ça c'est les meutes en fait, c'est peut-être pour Sacha Lang le groupe le plus politisé, conscient en fait. Après on va voir qu'il y a d'autres formes de.
On va voir les swings et les autres et les Edelweiss. Hein. Oh, ok, donc une petite pause et puis on reprend.
Nothing. den Türken überfallen. Sein Geschäft demoliert und seine Frau vergewaltigt. Die Bullen kamen und sagten, man könnte nichts dagegen machen.
Gott, wir werden nicht warten, bis die Farben wieder weh. Gebt den Faschisten keine neue Chance. Gebt den Faschisten keine neue Chance. Gebt den Faschisten keine neue Chance. Gebt den Faschisten keine neue Chance.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 84, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour sa troisième et dernière partie. Vous venez d'entendre un autre groupe allemand, dit Mimis. Je crois, je sais pas si ça se prononce comme ça, ou dit Mimis. Et donc, c'était ne donnez pas aux fascistes la moindre chance ou un truc dans le genre. Je vais pas le prononcer en allemand, ça suffit de s'humilier. Donc, Morane ce soir nous présente un livre assez riche avec plein de trucs sur justement un livre de Sacha Lang qui s'intitule Meute, Swing et Pirates de l'Edelweiss, qui a été publié chez l'éditeur Battement par Minute, et avec une préface donc de Yuan Chapoutot, un des spécialistes français du nazisme. Et donc Morane nous exposait un petit peu le contexte dans lequel des groupes de jeunes ont pu s'opposer de façon qui parfois était un petit peu infrapolitique, à travers plutôt des accoutrements, des coiffures, des styles musicaux, au nazisme, et donc une forme d'anticonformisme qui, malgré tout, a pu prendre des formes plus nettement politiques, comme par exemple dans une ville de tradition ouvrière comme Leipzig, où vous avez les meutes qui, elles, s'opposaient dans la rue aux jeunesses hitlériennes et qui ont pu subir parfois une répression politique avec des procès pour haute trahison quand même pour certains leaders. Donc là, y a plein de trucs que tu voudrais dire qui sont contenus dans le livre. On va tailler un petit peu pour dire des choses peut-être, je sais pas, qui t'ont le plus marqué sur les autres groupes qui étaient moins politisés.
D'autres groupes qui étaient moins politisés ou pas politisés à l'endroit où on penserait. Donc, il y a un autre groupe mythique qui est le groupe, encore une fois, on dit groupe, mais c'est très hétérogène à chaque fois, mais un groupe qu'on a appelé les Pirates de l'Edelweiss et les Navarros aussi. Eux, ils se situent dans la Ruhr, plutôt en Rhénanie, en gros dans l'Allemagne de l'Ouest, en fait, hein. Notamment dans des villes comme Cologne, Essen et Düsseldorf. Donc ce sont aussi des centres industriels avec beaucoup d'ouvriers et qui mènent, des actions punitives un peu directes contre les locaux du parti nazi, qui vont harceler les jeunesses hitlériennes, etc. Ces jeunes-là, en fait, sont moins... Ils ont beau être ouvriers, on a beau être dans les centres industriels, ils sont quand même moins politisés. En fait, il n'y a pas de rejet fondamental de l'idéologie nazie, justement. Et Lang montre que pendant la guerre, les groupes des Pirates de l'Edelweiss sont à la fois ceux qui sont peut-être le plus durement et frontalement opposés aux jeunesses hitlériennes et aux nazis, mais une bonne partie d'entre eux ont malgré tout fini par adhérer à une forme de quand même de patriotisme allemand, en fait, hein, avec le rêve un peu c'est ce que l'un des membres dit, rêve de petit garçon, d'être le héros qui se bat pour son pays, etc. Donc le rapport au positionnement par rapport à la guerre, etc., était quand même assez compliqué. Et pour le coup, eux, leur tenue renvoie à des choses qui, dans notre imaginaire, sont un peu particulières, donc des bagues tête de mort, des ceinturons tête de mort, des petits foulards noirs, etc. C'est pas du tout ce qu'on renverrait à la lutte contre le fascisme.
C'était gothique.
Voilà, c'était peut-être des gothiques, effectivement. Mais voilà, donc en fait, on a quand même des ouvriers, enfin des enfants, en fait, des jeunes issus de familles ouvrières, mais beaucoup moins politisés à gauche, en fait, et beaucoup moins dans la destruction du nazisme en tant que tel, que juste on préserve nos espaces de liberté face au régime qui veut nous les enlever, etc., etc. Donc là, on est plutôt sur justement une lutte infrapolitique, quoi. Donc voilà, ça c'est les Pirates de l'Edelweiss, les Navarros aussi, qui sont un sous-groupe de cette région-là, de la Rhénanie et de la Ruhr. L'autre groupe un peu emblématique, c'est la Rose Blanche, qui là, c'est plutôt donc une forme de résistance beaucoup plus intellectuelle, en fait.
Spirituelle, plus... voire non.
Spirituelle.
Ouais, il y a pas une, dimension un peu limite mystique dans la Rose Blanche, ou je dis n'importe où.
Alors, moi, avant de lire le livre, je ne connaissais pas, et je l'ai pas vu ça dans le livre. Peut-être que c'est vrai. Hein.
Non, peut-être que
en tout cas,
une
résistance intellectuelle, c'est sûr, puisque ça vient essentiellement de Munich, hein, la Rose Blanche, et qui est composée essentiellement d'étudiants. Certains sont très connus parce qu'ils ont été mis à mort pour le coup. On les a très durement frappés, hein, et très rapidement. Sophie Scholl, par exemple, Willy Graf, eux, ils ont été exécutés. Et eux, leur action était beaucoup plus à viser, comment dire, pas international, mais enfin voilà, ils coopéraient beaucoup plus en fait avec les alliés que ne pouvaient faire les autres groupes. Donc en termes de trahison et en termes de moyens d'action, on était quand même sur de quelque chose beaucoup plus lourd, avec des appels à la résistance. Et donc voilà, hein, en 1943, les principaux dirigeants de la Rose Blanche, qui étaient des jeunes, hein, donc des jeunes lycéens, ont été condamnés à mort et exécutés, quoi. Donc voilà, on était plutôt sur un milieu de la petite bourgeoisie cultivée. Donc ils étaient à Munich, mais ils étaient aussi à Hambourg. Voilà. Donc là, on a vraiment une résistance.
Oui, non, il y a un petit côté très chrétien en fait aussi.
Oui, voilà, c'est ça. Oui,
c'est pour
oui,
ça
voilà,
que je dis spirituel.
Oui.
C'était par exemple, Scholl peut écrire, la jeune luthérienne estime ainsi que l'humanité mourrait de faim si Dieu n'était pas là pour nous nourrir. Il y a tout un
truc. Oui, il y avait tout un pan chrétien aussi dedans, surtout à Munich, un peu moins à Hambourg, mais voilà. Et alors peut-être là, pour finir sur un groupe vraiment infra-politique, on avait des espèces de dandys qu'on a appelé les swings, en fait, la jeunesse swing, qui eux sont plutôt dans une opposition culturelle, un peu hédoniste. Alors c'est assez drôle, franchement, faut lire le livre rien que pour les rapports de la Gestapo, qui sont assez hilarants sur tous ces groupes là soit parce qu'ils se font casser la gueule, ou soit parce qu'ils sont dégoûtés de voir des hommes avec les cheveux en arrière et un peu bien habillés, etc. Ou des femmes, hein, parce que du coup dans cette jeunesse swing, on avait donc des jeunes hommes et des jeunes femmes qui contrevenaient totalement au code idéaux physiques de beauté ou de respectabilité nazie, en fait. Donc les garçons étaient habillés donc un peu comme des dandys, donc chemise imperméable à l'anglaise, cheveux longs, qui parlent en utilisant des anglicismes, qui écoutent du jazz, du swing, et qui vont danser sur ça, qui se trimballent avec leur gramophone pour se regrouper, écouter de la musique américaine notamment, beaucoup de jazz, etc.
Donc, sachant que pour un nazi convaincu comme Louis Ferdinand Céline, le jazz était une musique de nègre juif ou un truc comme
ça. C'est exactement ce qui est dit dans les rapports de la Gestapo aussi.
Ah bah,
hein.
Voilà, évidemment, c'est-à-dire que ici le truc étant surprenant, mais ça je crois que je l'avais déjà dit, c'est que dans l'idéologie nazie, les juifs ne doivent surtout pas être assimilés aux Européens, et donc ils sont toujours ramenés soit à l'Afrique, soit à l'Asie.
Oui.
Et donc le jazz pour eux, ça va être justement une musique qui est liée finalement par des espèces de liens un peu comment dire pseudo-historiques au judaïsme.
Oui, voilà. On sait exactement ce qu'on peut retrouver dans les rapports de la Gestapo et qui sont quand même mine de rien assez drôles à lire, en parlant de déchéance morale, de débauches les plus grossières. Alors il précise quelles sont toutes ces débauches et ça prête à rire aussi. Bon voilà, il parle de demi-juifs, demi-juifs.
C'est quoi ces débauches, moi je veux savoir.
Lisez le livre, c'est très précis. C'est s'embrasser avec la langue pour aller très vite en public, oui. Toucher le dos d'un homme quand on a une femme ou vice versa, danser un homme avec deux femmes autour. Enfin bon, bref. Des penchants sexuels atroces.
D'accord, la décadence.
Une décadence complète. Et eux, c'est plutôt des bourgeois, quand même, hein, parce que on est. On est plutôt à Hambourg et Berlin pour les swings. Et on est plutôt sur une jeunesse assez bourgeoise, même si ça va se démocratiser, qu'on va avoir des ouvriers qui vont faire partie de ces swings. Donc eux, ils sont plutôt dans une résistance symbolique. Hein. Pareil, les filles sont plutôt collées au canon de beauté américain, donc cheveux bouclés, rouge à lèvres, contre le purisme un peu nazi du naturel absolu, etc. Et voilà, donc on a cette forme de résistance qui là pour le coup est infra-politique et qui va pas vraiment mener, en tout cas pas pour ce groupe-là, dans les trajectoires de ses membres, à des politisations
plus radicales,
plus globales en fait.
Plus consciemment opposées aux nazistes.
Voilà, ça reste... Alors eux pour le coup, c'est des groupes qui ont quand même pas mal tenu parce que notamment dans les villes comme Hambourg et Berlin, économiquement on dépendait pas mal... de l'étranger, en fait. Et filtrer les disques qui venaient de l'étranger, etc., ça a été très compliqué pour le régime, voire quasiment impossible, c'est ce que montre le livre. Donc, c'est une forme de dissidence qui a largement perduré. Donc, la politisation est très indirecte. Par exemple, dans les rapports de la Gestapo, on peut lire que, plutôt que d'obéir au salut obligatoire... Heil Hitler, eux ils disaient swing Heil, ou ils déformaient en fait un peu comme ça les propos. Voilà. Et bon, pour ce qui est de la répression, quand même.
Ils ont pris cher.
Himmler ordonne l'envoi de plusieurs meneurs de ces groupes en camp de concentration pour y subir une correction. Donc ils ont eu le droit aussi leur petit triangle rouge dans les camps, etc. Donc il y a quand même une répression forte, mais un peu symbolique, dans le sens où elle s'est concentrée sur quelques individus pas du tout généralisée, en fait. Donc voilà, on les trouve plutôt Hambourg, Berlin, et ça a donné des peu de politisation. Voilà. Après, je vais peut-être aller vite là-dessus.
Il me reste 2 minutes à peu près.
Après, Lang aborde aussi d'autres points qui sont assez intéressants, de voir comment finalement. Malgré sa volonté d'imposer un contrôle totalitaire, autoritaire, le nazisme a été largement débordé par ces groupes-là. Il y a une répression forte, évidemment, mais le nazisme a été largement... pas tant que ça réussi à mettre au pas, en fait, la jeunesse. Dans les grandes heures des jeunesses hitlériennes, ils avaient réussi à rassembler 60%, en fait, des jeunes.
Ce qui est énorme, malgré tout.
Ce qui est énorme, mais...
Oui, mais il y a des trous dans la raquette.
Il y a des gros trous dans la raquette, quand même.
Sachant que, dans les 60%, tous ne sont peut-être pas des militants
convaincus. Voilà, dans les 60%, il y en a beaucoup qui allaient par obligation, sans forcément adhérer à l'idéologie nazie. Tout comme il y en a qui quittent les jeunes hitlériennes, sans forcément rejeter l'idéologie nazie pour autant. Hein, voilà, donc c'est assez pour eux. Mais voilà. Et en fait, au fur et à mesure de l'avancement de la guerre et de la perspective de la défaite pour les nazis, on va voir que les répressions et les modes d'opposition, en fait, vont changer. Et juste un mot pour terminer, on voit en fait aussi qu'après la guerre, on a quand même certains de ces individus qui sont devenus soit des membres du parti communiste, ou des membres qui ont plutôt adhéré à l'idéologie néo-nazie. Voilà.
Ah oui, d'accord. Oui, parce que c'était des trucs qui étaient un peu pas forcément informels et comment dire, c'est un peu informel et pas forcément idéologiquement structuré.
Voilà. On conseille vraiment ce livre. Là, nous, on l'a présenté très vite, mais il est génial à lire.
Écoute, t'as fait une excellente présentation parce que c'est quand même un livre un peu il y a quand même 250 pages, donc c'est
surtout qu'il y a beaucoup de descriptions.
Et c'est dense, ouais. D'accord. Donc c'était Sacha Lang, Meute, Swing et Pirates de l'Edelweiss. Contre-culture jeune dans l'Allemagne nazie, aux éditions donc Battements par minute. Vous pourrez retrouver l'émission donc sur Gurdulu, Jeudi Noir Archive. Et là, on peut vous laisser donc avec un morceau de Hot Club Frankfurt, Stomp.
Bonsoir, c'est Radio Libertaire, 89.4 et DAB+, c'est GMC+, Radio, Gabriel Maurice Claude et les autres, pardon. Et donc je rappelle à chaque fois de regarder sur le site de la radio pour télécharger la souscription, car nous avons besoin de votre soutien, car la politique culturelle et les problèmes des radios libre commence à être compliqué, donc nous avons besoin de votre soutien, vous donnez ce que vous voulez, quand vous voulez, vitesse que vous souhaitez. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de la grille des programmes réécoutables en podcast pendant 12 mois à partir de la fin de la diffusion. Vous pouvez également le télécharger et les mettre dans votre disque dur comme pour plus tard, comme collector. N'oubliez pas également de consulter mes deux pages GMC+, Gabriel Maurice Claude et les autres, et Jazz Libre, puisque je fais les deux émissions. Alors ce soir, nous retournons sur l'œuvre de Jacques Ibert, qui est assez importante, et donc je vous ai choisi plusieurs choses. La première œuvre que je vous propose, qui est en quatre parties, s'appelle « Le chevalier errant ». Alors c'était ce chevalier errant, en fait, est l'évocation de Don Quichotte, je pense que ça n'a échappé à personne, mais fait un petit peu d'une autre manière. Et ça a été une commande qui a été passée en 1934 par Ida Rubinstein, qui faisait suite au triomphe de Diane de Poitiers. Elle était prévue pour jouer et danser en même temps que Jeanne au bûcher de Néguère et que le Festin de la Sagesse de Darius Milhaud, et elle n'a été créée qu'en 1950, seule à l'Opéra de Paris. L'œuvre, en fait, donc, au départ, fait référence au texte de Cervantes, bien sûr, comme je vous le disais, en quatre tableaux, pardon, et fait appel à, au départ, à des récitants et des mimes pantomimes. Mais en fait, Jacques Ibert a dû en fait, se résoudre à tirer à la fin une suite orchestrale condensée, largement coupée, que nous allons écouter maintenant. Alors, il y a évidemment quelques couleurs hispaniques, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Il y a notamment la partie L'âge d'or, qui est absolument superbe, et je vous réserve une petite surprise après. Alors, cette œuvre, Le Chevalier Errant, se divise donc en quatre parties. La première, ce sont les moulins. La deuxième, la danse des galériens. Et enfin, ensuite l'âge d'or, donc qui est vraiment une partie absolument magnifique. Et le final, avec les comédiens. Alors, quelques mots sur Ida Rubinstein, qui a fait commander cette œuvre à Jacques Ibert. Elle est célèbre, et on a déjà évoqué son nom dans plusieurs émissions, parce qu'elle fait partie vraiment du gratin de toute cette époque, avec Debussy et compagnie. Elle était danseuse, autodidacte, mais avec un certain don, et surtout mécène. Et c'est elle qui, évidemment, était célèbre, qui a commandé à Maurice Ravel le fameux boléro à laquelle elle a prêté son corps pour danser à la présentation en 1928. Voilà. Et je vous propose donc une version par l'Orchestre National de Lorraine, dirigée par Jacques Mercier. Et c'est une version relativement récente, puisqu'elle date du 21 et 24 octobre 2014. Voilà.